Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie ?
Ce qui me fait marcher dans la vie, c'est la curiosité, je crois. C'est de comprendre plein de choses, enfin d'essayer de comprendre, et aussi un peu, ça c'est un biais de quantifier des scénarios, pas simplement de comprendre les mécanismes, mais de savoir s'ils sont vraiment pertinents, quoi. Je crois que c'est ça qui me fait marcher, enfin, dans la vie scientifique.
Bonjour, l'invité de Rien à voir magazine de la rédaction d'Alternante FM est Gilles Rammstein, directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement du CEA, auteur de Voyage à travers les climats de la Terre paru aux éditions Odile Jacob, co-auteur avec Sylvestre Huette du Climat en 100 questions paru aux éditions Talendier. Gilles Rammstein est intervenu dans le cadre du cycle de conférences organisé par la Société d'astronomie de Nantes sur le thème du climat terrestre à l'exobiologie.
Votre parcours, vous vous intéressez au climat, ça n'a pas été tout de suite?
Non, je vais faire une conférence, ce sera sur les contingences. Et dans ma propre vie, il y a énormément de contingences. C'est-à-dire que moi, je savais à 20 ans que j'allais devenir non-voyant, peut-être à 80, je ne savais pas. Mais je le savais et je faisais une école d'ingénieur en électronique et je savais que ça, ce n'était pas possible en fait. Et là, j'ai rencontré un jeune prof qui m'a dit bah, « Tu devrais faire de la recherche, là, c'est des concepts, tout ça, tu seras moins gêné. » Puis ça correspond plus aussi à mon tel esprit. Et donc grâce à lui, j'ai fait ça s'appelait un DEA, un diplôme d'études approfondies, en physique du solide, physique nucléaire et particules. Et puis quand j'ai voulu faire une thèse, donc moi je m'entendais très bien avec ces gens-là, j'étais à Caen, et ils m'ont donné un sujet... Ils m'ont dit, ah tiens, Gilles, t'es ingénieur, en plus t'as un DEA, donc ça correspond exactement bien à nos besoins. Tu vois, là, t'as un énorme couvercle de poubelle qui fait 2 mètres de diamètre, ça s'appelle un nodoscope. Tu vas le truffer de 96 détecteurs tous pareils, mais bien répartis, et ça nous permettra de calculer les chocs et les particules émises vers l'avant du grand accélérateur national d'ions lourds de Caen. J'ai dit, mais non, moi, je peux pas faire ça, j'ai pas envie de faire ça. En plus, le hall, il est très sombre. Trouvez-moi un autre sujet. Ils m'ont dit, mais non, Gilles, il n'y a que ce sujet. Oh, alors je suis parti au CEA à Saclay, puis là j'ai eu un autre sujet de thèse qui était sur les cavités supraconductrices pour ions lourds, et voilà. Et puis j'ai fait ça pendant quelques années, j'ai passé ma thèse, mon habilitation à diriger des recherches, et puis là j'ai vers 32-33 ans, j'ai quand même une petite crise existentielle. Je me suis dit, bon, quand j'écris un article sur des instabilités de faisceaux dans des machines qui verront peut-être jamais le jour, j'écris cet article, il y a peut-être 10 personnes qui vont le lire, il y en a 5 qui vont aller jusqu'au bout, et il y en a une ou deux à qui ça pourra peut-être servir un jour. Là, je me suis dit, tout ça pour ça, Gilles? Là, j'ai commencé à me dire, maintenant, ça. Et alors, chose extraordinaire, c'est ça la contingence, c'est que dans mon équipe, il y avait un mec qui est devenu très, très connu là, par la suite, qui s'appelle Étienne Klein. Et Étienne, il me dit, bah, Gilles, moi j'ai entendu parler du fait qu'ils allaient monter une équipe de modélisateurs, mais pas des cavités, tout ça, du climat. Est-ce que tu veux les rencontrer? Je dis, bah oui, je veux bien les rencontrer. C'est comme ça que j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas très connu, mais déjà un peu connu, qui s'appelait Jean Jouzel. Et je l'ai écouté, et je lui ai dit, bah moi, je vais faire ça. Et en 92, j'ai changé, je suis passé dans... Ça, c'est un peu de la cuisine interne, mais ce qu'on appelle l'électromagnétisme, c'est géré par des équations qu'on appelle de Maxwell. Et moi, je suis passé à la mécanique des fluides, parce que pour l'atmosphère et l'océan, c'est la mécanique des fluides. Et ça, c'est géré par des équations qui s'appellent de Navier-Stokes. Bref, tout ça pour dire qu'il a fallu que je réapprenne tout. Et donc, pendant 2 ans, j'ai réappris. Puis en 94, j'étais apte au service. Et là, j'ai fait de la paléoclimatologie les 30 années qui ont suivi, puisqu'on est en 2024 maintenant.
Vous vous souvenez le titre de votre thèse que vous avez soutenue précisément en 87?
Alors, la thèse, ouais, je l'ai soutenu en 87, et très précisément, non, au mot pour mot, non, mais en gros, je sais que c'était élaboration de cavités supraconductrices pour l'accélération d'ions lourds.
Vous n'êtes pas dans l'ordre. Accélération d'ions lourds par système linéaire à cavité supraconductrice indépendante. Étude et mise en œuvre d'une cavité niobiome à hélice à 2 zones accélératrices, détermination des champs et description du mouvement des ions dans le système accélérateur.
Ça, c'est le titre de la thèse.
Oui.
Oh la vache. Non, non,
ça, c'est sérieux.
Ouais, ouais, non, mais je pensais pas que c'était si long. Si long et si descriptif, on croirait presque à un petit abstract, quoi, un petit résumé déjà de la thèse.
Quelles sont les bases requises pour être un bon climatologue ?
D'abord, est-ce que je suis un bon climatologue ? Moi, je suis surtout un spécialiste d'une seule question, c'est les modèles qui sont utilisés pour prévoir le climat du 21e siècle, sont-ils capables au moins de prévoir des changements climatiques passés, donc qui sont avérés, pour lesquels on a des données ? Parce que quand vous êtes un climatologue du 21e siècle, vous faites des projections climatiques et par nature, bah, vous ne pouvez pas les vérifier puisque vous faites des projections pour le 21e siècle. Alors que si vous utilisez les paléoclimats, là, vous pouvez vérifier si vos simulations numériques sont en concordance avec des données, parce qu'on a des données pour le passé. Et donc moi, je ne suis pas un climatologue au sens un peu classique du terme, c'est-à-dire que les climatologues, ils travaillent, enfin les climatologues, les modélisateurs du climat, je devrais dire, hein, parce que c'est plus précis quand même, les modélisateurs du climat, ils travaillent avec ou à développer des énormes codes. Alors au début, c'était des codes de météo, donc c'était la physique de l'atmosphère, ça servait pour les agriculteurs, pour les navigateurs, et ça permettait d'essayer de savoir comment allait être le climat dans les jours qui allaient suivre. Et puis après, dans les années 90-2000, on a été capable de coupler les modèles atmosphériques avec les modèles océaniques, et ça c'est important parce que les deux fluides caloporteurs, c'est-à-dire les deux fluides qui permettent de redistribuer l'énergie et la chaleur à la surface du globe, c'est d'une part l'atmosphère, système rapide, et d'autre part l'océan, système lent. Et si vous voulez avoir des idées sur le climat c'est des moyennes de 30 ans, il vous faut les deux. Et donc à partir des années 2000, on a commencé à faire des simulations couplées sur des très gros ordinateurs pour essayer de bien comprendre, de mieux comprendre le climat qui allait advenir. Et en parallèle, il y avait des gens comme moi qui sont très marginaux, hein. C'est-à-dire que les gens qui développent les modèles, c'est des dizaines de milliers de lignes de code. Bon, bah, ils s'intéressent aux mécaniques de la convection, des choses très précises. Et c'est grâce à ces gens-là, si vous voulez, il y a des gens qui sont un peu sur le pont du bateau comme moi, qui utilisent les modèles pour des raisons très particulières, puis des gens qui, dans les cales, qui développent le modèle et qui le valident sur des données actuelles pour être sûr que ça marche vraiment très bien. Donc moi, je suis un petit peu à la marge de ce point de vue-là, parce que moi, je suis un modélisateur des paléoclimats. Donc ça me permet de travailler avec des vrais climatologues, c'est-à-dire ceux qui développent le modèle et qui le valident, mais surtout ça a un peu réglé ma crise existentielle, c'est-à-dire ça me permet de discuter avec des tas de gens, des géologues, des paléontologues, des palynologues, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur le pollen, plein de gens qui reconstruisent les archives climatiques passées de la Terre. Et donc mon problème existentiel de me dire, putain, mais quand j'écris un papier sur le beam breakup, c'est-à-dire l'instabilité d'un faisceau dans une machine, eh ben personne ne va le lire, ça va intéresser peu de monde. Ben, j'avais au moins l'impression, en faisant de la paléoclimatologie, en discutant avec plein de gens, que j'étais utile parce que je quantifiais des scénarios plausibles de changement climatique. Finalement, ça me suffisait, c'est peut-être pas énorme, mais c'est déjà pas mal.
Nous sommes rencontrés en 2016. Et à l'époque, je vous avais demandé quelles étaient vos sources d'informations. Dans votre réponse, vous me souligniez qu'il manquait 1 milliard d'années de données. Est-ce qu'en 8 ans, on a gagné un peu de données ?
En fait, si vous regardez le passé, bah évidemment, plus vous remontez dans le temps, moins vous avez de données. Donc sur les 2000 dernières années, à l'échelle du globe, hein, pas de la France, ni de l'Europe, ni de l'hémisphère nord, à l'échelle du monde, on est capable, grâce à des techniques que je peux expliquer, de restituer des températures assez précises à l'échelle des 10 000 dernières années aussi, à l'échelle des 2,7 millions d'années, pourquoi je dis 2,7, c'est parce que c'est le début d'une période qu'on appelle le quaternaire, on est encore capable de dire énormément de choses. Après, si vous sortez du quaternaire, vous rentrez dans ce qu'on appelle les 65 derniers millions d'années, c'est-à-dire depuis qu'un astéroïde est tombé, fait disparaître tous les dinosaures sauf les oiseaux. Sur les 65 derniers millions d'années, on sait aussi dire des choses, mais on a beaucoup moins d'indices. Mais moi, comme paléoclimatologue, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire tourner mes modèles ? Il y a une chose qui est totalement indispensable. J'ai besoin de savoir où sont les continents et où sont les océans. Si je ne sais pas ça, comme je vous ai expliqué, c'est les deux fluides caloporteurs. Bah, si je ne sais pas ça, je dis n'importe quoi. Et donc mon horizon à moi, alors que la planète elle a 4,6 milliards d'années, Mon horizon à moi, c'est à peu près, on peut remonter précisément sur la position des continents et des océans grâce à une discipline qui s'appelle le paléomagnétisme. On peut savoir comment était la tronche en fait de la Terre à peu près jusqu'à 1,5 milliard d'années. Donc moi, de toute façon, mon horizon à moi, comme modélisateur, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à avoir une vision tridimensionnelle, hein, eh ben c'est à peu près 1,5 milliard, je ne peux pas remonter plus loin. Il y a des données hein, plus loin, mais moi, je ne peux rien apporter parce que mes modèles nécessitent la connaissance de où sont les chaînes de montagne, où sont les continents, comment sont les bassins océaniques, sinon je ne peux rien dire sur le transport par l'atmosphère et l'océan. Donc ça, c'est une limite assez dure quand même. Hein. Ce n'est pas grave, hein. 1,5 milliard d'années, ça laisse de la place. Hein.
En quelque sorte, pour vous, c'est une espèce de mur de Planck que vous ne pouvez pas dépasser.
Oui, c'est un peu un mur de Planck que je ne peux pas dépasser. Et en fait, l'amélioration de nos connaissances là-dessus fait que, ça c'est mon horizon à moi, la génération d'après, je pense qu'elle pourra peut-être aller jusqu'à 2 milliards d'années. Et vous avez le même horizon pour les glaces. Donc les gens, ils font des carottages de glace dans les calottes, en Antarctique ou en Groenland. Et évidemment, comme la glace flue, la glace, elle permet de remonter. Alors pour le Groenland, c'est à peu près 100 000 ans. C'est une petite calotte, la calotte groenlandaise. Mais en Antarctique, grâce au forage de Vostok, au centre de l'Antarctique, alors là, on fait un trou de 3 km, on peut remonter sur 800 000 ans. Et là, ils sont en train de faire un autre trou où ils espèrent monter jusqu'à 1,2 million d'années. Mais la glace, son horizon, et ça c'est dur, c'est à peu près 1,5 million d'années. Et pour les océans, quand vous faites des forages dans les océans, vous vous dites, ah, les océans, ben ça va bouger ça. Mais bien sûr que si, ça bouge. Parce qu'on forme de la croûte océanique au dorsal, et puis cette croûte, elle flue, puis elle subducte. Donc même dans les océans, vous avez un horizon temporel qui est à peu près jurassique, c'est-à-dire 200-250 millions d'années. Les seules choses qui nous permettent d'aller plus loin, c'est ce qu'on appelle les vieux cratons, c'est-à-dire les surfaces continentales qui n'ont pas trop bougé. Donc il n'y en a pas beaucoup, en fait. Hein. Des endroits qui nous permettent d'aller jusqu'à, disons, 3 milliards d'années, il y en a très peu sur Terre, mais il y en a.
Je parlais de mur de Planck, mais j'aurais pu introduire ma question en faisant cette observation en l'état actuel de nos connaissances.
Il y a des murs de Planck qui sont vraiment très durs. Je vous dis, les glaces, c'est la peau d'orange, je veux dire, de la Terre. Hein. Parce que pourquoi c'est si important, les glaces? C'est parce que les glaces, elles préservent les bulles, et les bulles, elles préservent l'atmosphère. Les forages marins, les forages continentaux, il n'y a pas de bulles, donc voilà. On n'a pas cette information supplémentaire. Mais pour chaque archive, à la fois la glace, l'océan, les continents, je vous dis, on va beaucoup plus loin, il y a des horizons temporels à chaque fois. Il y a des murs de Planck, et quand vous m'avez interrogé il y a 7 ans, je vous aurais dit en toute bonne foi, il y a aussi un mur de Planck sur le fait qu'on ne peut pas remonter tellement au-delà de 4 milliards d'années, alors que la Terre en a 4,6, parce que vous avez un effet de late bombarding, c'est-à-dire qu'il est tombé sur Terre une pluie d'astéroïdes qui fait que voilà, c'est comme un rideau, derrière ce rideau, on ne sait pas. Et ça, ça a changé quand même en 7 ans, en particulier grâce à un gars qui s'appelle Morbidelli, enfin, on dit toujours un seul nom, alors en fait c'est très collectif. Hein. Ils ont fait un programme qui s'appelle NICE, qui à l'époque, on pensait qu'il y avait effectivement un light bombarding. Aujourd'hui, on pense qu'il n'y avait peut-être pas de light bombarding, et qu'en fait il y avait un bombardement qui a été incessant pendant les centaines de millions d'années qui ont suivi la formation de la Terre. Et donc ce mur que je pensais qu'on avait il y a 4 milliards d'années, qui ne nous permettrait jamais d'aller plus loin que 4 milliards d'années, il a été dépassé parce qu'on a trouvé ce qu'on appelle des zircons, c'est-à-dire en fait des espèces d'archives, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais d'archives qui permettent de remonter à la connaissance du climat un peu à 4,2, 4,3 milliards d'années, ce qui, quand vous m'avez vu en 2017, en tout cas dans mon esprit, n'était pas du tout évident, quoi. Donc vous voyez que les murs bougent.
C'est un petit peu ce qui me motivait dans cette deuxième ou seconde rencontre, on verra à l'avenir. C'était d'actualiser nos connaissances, parce que vous l'aviez très bien expliqué la première fois. Et je me dis, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a progressé? Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau?
Il y a plein de trucs nouveaux, malheureusement, heureusement, le climat, ça bouge vachement. Donc un truc qui, par rapport à il y a 7 ans, on se dirige vers un monde, c'était déjà un peu vrai il y a 7 ans, mais maintenant c'est sûr que ça va mal se finir, où on va avoir, d'ici la fin du siècle, entre 500 et 900 ppm de CO2. Donc il y a 7 ans quand on s'est...
Quand vous dites ppm...
Parties par million. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'atmosphère qu'on respire, il y a du N2 et du O2, de l'oxygène et de l'azote. Ça, c'est vraiment les constituants principales. Et vous avez aussi, bien sûr, de la vapeur d'eau, H2O, de la vapeur d'eau, de l'eau sous forme de vapeur, qui se condense, qui fait des nuages. Mais vous avez aussi, c'est à l'état de trace, c'est pour ça que l'unité dans laquelle on les compte, c'est en partie par million, vous avez du CO2, du méthane et d'autres gaz à effet de serre. Donc, depuis la fin des années 50, à Hawaï, il y a un gars qui s'appelle Keeling, qui a fait les premières mesures de CO2 atmosphérique. Et puis, grâce au carottage, en 2017 c'était largement fait, hein, de 1987, les premières expériences, on connaît le contenu atmosphérique grâce aux bulles des 800 000 dernières années. Et donc, on connaît très bien la composition de l'atmosphère. Et on sait que la composition de l'atmosphère, depuis 2 millions d'années, c'est 180 parties par million en phase glaciaire, qui sont les phases les plus importantes, et 280 parties par million en phase interglaciaire. Nous, on vit dans une phase interglaciaire depuis 10 000 ans. Donc, vous voyez que bon, ça oscille entre une valeur basse et une valeur haute. Et nous, aujourd'hui, à cause du fait qu'on rejette du CO2 dans l'atmosphère, on a complètement pulvérisé cette petite fenêtre. C'était déjà le cas en 2017. En 2024, la question, c'est que rien n'a bougé. Et donc, on est sur la pire des trajectoires qui est prévue. Et donc, on peut s'attendre à avoir 500 à 900 parties par million de CO2 à la fin du siècle. Bon, et alors ? Alors, je vais vous expliquer quoi. Et alors ? Quand on s'est vu il y a 7 ans, j'aurais pu déjà vous le dire, ça. C'est-à-dire qu'il y a 7 ans, on était plutôt à 400 ppm. 7 ans après, on est à peu près à 420. Et alors, si on regarde dans l'histoire, est-ce que la Terre, elle a déjà connu une atmosphère avec 400 ppm de CO2. Donc, pour le quaternaire, non, je viens de vous l'expliquer, c'était une petite fenêtre entre 180 et 280, il faut remonter à 3 millions d'années. Alors, 3 millions d'années, pour une vie d'homme, c'est complètement énorme, mais pour la tectonique des plaques, 3 millions d'années, c'est la porte à côté. Et si vous étiez un extraterrestre, que vous arriviez sur Terre il y a 3 millions d'années, qu'est-ce que vous verriez ? Alors, vous reconnaîtriez quasi tout. La tectonique, ça ne bouge pas tellement en seulement 3 millions d'années. Il y a un truc qui vous frappe, forcément, c'est que le niveau marin, il est 10 à 15 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Si vous regardez mieux, vous verrez que y a toujours le Groenland, mais il n'y a plus de calottes sur le Groenland. Il y a toujours l'Antarctique de l'Ouest, mais il n'y a plus de calottes sur l'Antarctique de l'Ouest. Le Groenland, si on le fond complètement, ça fait 7 mètres. L'Antarctique de l'Ouest, ça fait à peu près 5 mètres. Et bien, vous avez déjà 12 mètres de niveau marin. Et c'est ça, la grosse différence. Très bien. Donc, les gens se sont mis à travailler là-dessus, voyant que on allait vers 500 à 900, plus 400, mais 500 à 900, ils se sont dit, c'est quand la dernière fois que la Terre a eu 500 à 900 ppm ? Ben là, il fallait remonter 15 millions d'années en arrière, au Miocène. Donc les gens depuis 7 ans, les gens se sont mis à travailler sur cette période-là, du Miocène moyen, de l'optimum climatique du Miocène moyen. Pourquoi ? Ben parce qu'on veut savoir comment ça fonctionne un monde dans lequel il y a 900 ppm de CO2, qui est un monde qu'on n'a pas connu depuis au moins 15 millions d'années. Et c'est un monde très différent de l'actuel, c'est un monde effectivement où les températures globales sont plus 4 à plus 6 degrés, où il n'y a pas de calotte au Groenland, évidemment. Il y a une calotte en Antarctique, mais elle est beaucoup plus petite, mais elle est aussi beaucoup plus dynamique. Et c'est un monde très différent du monde actuel. Le monde actuel, il est dipolaire, c'est-à-dire que vous avez à la fois une calotte de glace dans l'hémisphère sud et une autre dans l'hémisphère nord. Ça permet la circulation océanique particulière, qui n'est plus possible quand le monde est unipolaire, qu'il n'y a qu'une seule calotte de glace. Ça change beaucoup de choses. Donc les gens se sont mis à travailler beaucoup plus là-dessus. Et puis la grosse différence du point de vue climatologique, ça c'est pas vraiment mon rayon, mais c'est quand même vachement important, c'est que vous expliquez aux gens qu'à la fin du siècle, on sera 2 à 3 degrés de plus. Vous savez, c'est le truc de la grenouille. Vous mettez une grenouille dans une cocotte minute et puis vous la faites chauffer doucement. Elle ne se rend pas compte qu'à la fin, ça va bouillir, si ça va doucement. Par contre, ce qu'on est capable de faire maintenant, c'est que tous les extrêmes climatiques auxquels on assiste, les canicules insensées, les feux de forêt comme on n'a jamais connu, les inondations monstrueuses, les moussons qui mettent 3 millions de Pakistanais dehors, tout ça, on est capable maintenant d'attribuer la partie humaine à ces catastrophes-là. Parce qu'il y a des gens qui vous disent « Oui, mais le climat a toujours changé, d'accord, mais jamais avec cette fulgurance-là. » Et des événements extrêmes, il y en a toujours eu, oui, mais jamais avec cette intensité et cette fréquence-là. Et pourquoi ? Pour une partie des événements extrêmes, c'est très facile à expliquer. Vous chauffez. Quand vous chauffez la Terre, elle évapore. Quand vous chauffez l'océan, il évapore. Mais l'océan, il évapore tout le temps. C'est une pluie infinie. Il y a toujours de l'eau. Sur le continent, non. Donc en fait, quand vous chauffez, les continents se réchauffent plus vite que les océans. Bon, très bien. Et les océans, comme ils se réchauffent, ils émettent de l'eau. Et pour donner un exemple très précis et très concret, la Méditerranée, en automne, comme elle est chauffée, il y a plein de vapeurs d'eau. Et cette vapeur d'eau, elle est advectée vers les continents, il fait plus chaud, et elle se fracasse sur les Cévennes, et ça donne des événements cévenols. Et bien, des événements cévenols, il y en avait avant l'homme, il y en aura après l'homme, sauf que là, l'homme, il chauffe tellement la Méditerranée qu'il y a beaucoup de vapeur d'eau, et que ça fait des événements cévenols d'une intensité record. Et ça, les gens sont en train de vivre, c'est peut-être plus prégnant qu'en 2017, c'est-à-dire que le temps joue à la fois pour nous et contre nous. Il joue pour nous parce que tout le monde se rend compte que le climat est en train de changer à grande vitesse. Et il joue aussi contre nous parce qu'on est 8 milliards d'hommes et que si ça change aussi vite, ça va être difficile à gérer. C'est pas tellement différent de 2017, sauf qu'il y a une espèce d'accélération du truc.
Gilles Rammstein, auteur de Voyage à travers les climats de la Terre paru aux éditions Odile Jacob, est l'invité de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM.
Qu'est-ce qui fait que l'enseignement du passé, sur des durées longues, peut permettre des prédictions, alors que le paramètre temps de changement est plus ramassé? Il y a des espèces qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, qui s'adaptent, et assez rapidement. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas trouver d'autres hommes qui vont s'adapter plus rapidement que les autres?
Il y a plusieurs choses. Déjà, pour se rassurer...
Ça vous fait sourire, ma question.
Oui, ça me fait sourire. Déjà, pour se rassurer, qu'est-ce qu'on fait? Pour se rassurer, nous, les hommes, on se dit, est-ce que ça a déjà existé? Si ça a déjà existé... On regarde comment c'était quand ça a déjà existé. Donc je vous ai parlé des analogues. Les gens, ils ont commencé par trouver des analogues à 400 ppm. C'était il y a 3 millions d'années au Pliocène. Maintenant, on essaie de chercher des analogues à 900 ppm. Il n'y a aucun bon analogue. Parce que, évidemment, au Miocène, il n'y avait même pas d'homme. Même pas d'ancêtre de l'homme sur Terre. Là, on est 8 milliards. Il n'y a pas d'analogue. Par contre, là où vous avez raison, c'est que moi, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire du climat. Mais en réalité, en même temps qu'il y a ce changement climatique, évidemment, il y a aussi évolution de la biodiversité extraordinaire. Alors vous disiez, il y a des espèces qui disparaissent, d'autres espèces qui arrivent. Non, non. Il y a des espèces par milliers qui disparaissent. Et dans un temps aussi foudroyant, il y a très peu d'espèces qui apparaissent. Donc le solde, c'est l'effondrement de la biodiversité auquel on assiste. Et le meilleur, malheureusement, le meilleur analogue qu'on puisse trouver quand on regarde toutes les composantes, c'est-à-dire pas simplement la physique, la chimie, l'acidification des océans, les changements climatiques, quand on regarde l'effondrement de la biodiversité, le meilleur analogue qu'on peut regarder... C'est les grandes extinctions. Et c'est vers ça qu'on va. Si on ne fait pas attention, c'est déjà commencé. Et voilà, si on ne gère pas bien... Parce que la différence, si vous voulez, entre nous et les dinosaures, c'est que les dinosaures, bon, de toute façon, ils n'avaient pas beaucoup le choix. Un astéroïde de plusieurs kilomètres leur est tombé sur la tête. Mais nous, c'est très différent. L'astéroïde, c'est nous. On est en train de provoquer une crise majeure. Et le gros avantage qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on est vachement informé. On sait ce qu'on fait. On sait la trajectoire. Et donc, on peut la changer. C'est la seule raison pour laquelle j'ai de l'espoir, c'est que l'intelligence humaine et surtout l'intelligence collective qui fait qu'on est là, vous et moi, en train de discuter, c'est sans doute parce que les homo sapiens, par rapport aux autres, avaient une intelligence collective, un opportunisme, un caractère social extrêmement puissant, et bon, ils ont survécu, ceux qui sont là. Ben là, il va falloir l'utiliser, cette capacité collective qu'on a, dans le sens d'éviter le pire, quoi.
Vous êtes intervenu dans le cadre des conférences de la Société d'astronomie de Nantes et le thème était du climat terrestre à l'exobiologie. Donc là, on sort de la spécificité de la Terre.
En fait, j'ai un ami qui est parti à la SAN qui m'avait proposé de faire un séminaire sur cette question-là il y a un an et demi. Moi, ça m'intéressait beaucoup de sortir un tout petit peu, parce que j'aime pas aller sur des domaines que je connais pas, mais de sortir un peu de mon domaine de compétence et de répondre à la question « Sommes-nous seuls, par exemple ?» Ça, c'est une grosse bévue. Je suis incapable de répondre à cette question-là. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai modifié la question. Moi, je ne peux pas répondre à la question, c'est nous seuls, personne ne peut répondre à cette question-là. Par contre, je peux répondre un peu à toutes les contingences extraordinaires qu'il a fallu dans l'histoire de la Terre et de notre système planétaire pour que vous et moi, on se retrouve à discuter sur ce canapé. Et donc, la question, je l'ai un peu modifiée, un peu adaptée. C'est plutôt celle-là, quoi. Tout ce séminaire était en fait basé sur cette idée qui n'est pas de moi. Moi, j'ai très peu d'idées, en fait. Je quantifie beaucoup, mais je n'ai pas beaucoup d'idées. Qui était une idée en particulier de Bibring, qui est quelqu'un de très peu connu, malheureusement, qui a écrit un livre où il vise à répondre à cette question « Sommes-nous seuls ?» par rapport à une personne qui est beaucoup plus connue et médiatique, qui s'appelle Nathalie Cabrol. Et en gros, les histoires des deux sont très différentes. Celle de Bibring, c'est de dire que peut-être la vie est unique et qu'elle est sur la Terre, et qu'on a des bonnes raisons de penser ça. Et celle de Nathalie Cabrol, qui se base sur des philosophes grecs très anciens, qui est qu'à cause de l'innombrable, il y a forcément de la vie ailleurs. Et entre ces deux pôles, moi j'ai voulu raconter ma petite histoire à moi, qui est plutôt une histoire de quelqu'un qui observe les changements sur des grandes échelles de temps, sur la seule planète vivante qu'on connaît, enfin, où il y a de la vie, qui est la Terre. Et quand vous faites ça, vous êtes forcément frappé par les extrêmes contingences qu'il a fallu, les hasards extraordinaires qu'il a fallu pour que même une vie primitive puisse arriver sur Terre et surtout qu'elle puisse rester pendant des milliards d'années, quoi. Et ça, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on n'est pas sûr de retrouver malgré l'innombrable. Donc c'était ça un peu l'objet du séminaire, c'était de faire réfléchir un peu là-dessus, quoi.
Quand je rencontre des chercheurs, des scientifiques sur les questions du vivant, je leur demande toujours une définition du vivant. Et je ne pense pas en avoir eu une.
Non, mais c'est très difficile. C'est très, très difficile. Je pense qu'il y a des dizaines de définitions du vivant. Si vous allez sur la NASA, même quand c'est des réflexions collectives et pluridisciplinaires, moi, je suis incapable de donner une vraie définition du vivant, pas plus que les autres. Je pense qu'il y a un aspect qui est important dans le vivant. C'est la réplication, la capacité de répliquer, ça c'est extrêmement important. Donc le maintien, en fait, une capacité de réplication de la vie, c'est la chose que moi je mettrais en avant. Après, discuter moi j'ai essayé de le faire, hein. C'est très compliqué. Pour préparer ce séminaire, en fait, je vais vous dire, j'ai écouté plein de choses, et j'ai écouté une fille qui s'appelle, je crois, Bernard, et elle s'était posé cette question, que moi je ne me serais jamais posée, de savoir, en termes de cellules, où est-ce qu'il y a le maximum de diversité de cellules, c'est-à-dire d'archées, de bactéries. Et en réalité, quand vous regardez la Terre avec cette espèce d'angle-là, non pas de savoir où est le vivant, mais de savoir où est-ce qu'il y a un maximum de cellules, ben vous vous rendez compte qu'en fait, l'endroit le plus important où il y en a, c'est dans les sols, dans la diversité, et pas du tout à la surface. Et donc, ça donne une vision très très particulière du développement de la vie si on s'intéresse au nombre de cellules et à où est-ce qu'elles se trouvent, et aux organismes pluricellulaires comme les nôtres qui sont à la surface du globe. Donc je pense qu'il y a des milliers de façons de concevoir, de regarder le vivant, et que dans l'exobiologie, enfin, je ne travaille pas du tout là-dessus, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus comme François Forger, il y en a plein, et en fait, c'est... j'en ai parlé pas mal dans le séminaire, mais la vie primitive, on en trouvera sûrement, de la vie intelligente, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est beaucoup moins sûr. La vie qu'on appelle intelligente, déjà c'est très discutable ce qu'on appelle la vie intelligente, mais je pense que ça veut dire la nôtre, celle des hommes. Alors après on peut remonter à Touma, il y a 7 millions d'années, ou aux Homo sapiens, il y a 300 000 ans. Mais enfin, la vie des gens qui ont développé des technologies qui sont capables de se poser un certain nombre de questions, c'est un trait de lumière dans la pénombre, c'est-à-dire c'est rien, c'est 200 ans sur 4,6 milliards d'années. Donc déjà, ça, c'est déjà très compliqué. Et puis après, franchement, vous pouvez vous poser la question, si vous êtes une société très évoluée, la question de savoir, est-ce que ça vaut le coup de rencontrer l'homme ? Est-ce que ça vaut le coup ? Je veux dire, les Indiens d'Amérique du Sud, ils n'ont pas eu tellement le choix, ils ont rencontré les Européens, ben ils sont morts. Hein. Grosso modo, des milliers de maladies, enfin, ça a été une catastrophe. Voilà, ça fait réfléchir. Moi, en tant que scientifique, je suis curieux, comme on a dit au début, ce qui m'intéresse, c'est la curiosité. Donc moi, je suis très intéressé par l'exobiologie, la recherche d'exoplanètes. Mais comme citoyen, je pense que ça vaut le coup de réfléchir. Dans l'équation que je montre au début du séminaire là, de Drake, il y a 7 facteurs qui sont importants pour essayer de quantifier quels sont les facteurs importants quand on recherche la vie ailleurs. Bon, c'est juste une quantification, ça ne va pas tellement plus loin. Il y a un des 7 facteurs qui est sur l'ensemble des milliards de planètes qui auraient... Est-ce que sur ces ensembles de planètes où il y aurait une civilisation intelligente, est-ce qu'elle aurait vraiment envie de communiquer avec nous ? C'est une vraie question pour moi.
Je vais conclure par une de vos observations. Vous avez dit, peut-être que vous allez vous renier, il vaut mieux garder notre planète vivable plutôt que de la rendre invivable pour être obligé de partir ailleurs, car ce n'est certainement pas la bonne solution.
Ah, là, je serais beaucoup plus radical. Il n'y a pas d'option B, il n'y a aucune chance. Si vous voulez, cette histoire de partir ailleurs, c'est d'une bêtise insondable. Parce que l'air que vous respirez, l'O2 que vous respirez, il est le fruit de la vie. Donc, on vit dans un système très compliqué, un système d'interrelation entre la nature et nous, que ça aussi, on est capable de très bien comprendre aujourd'hui. Et donc, l'idée que si on bousille notre planète, c'est pas grave, on ira en bousiller une autre, c'est juste idiot. C'est un rêve de milliardaire, pourquoi pas, ouais, mais c'est pas du tout une possibilité pour l'humanité, ça c'est sûr.
Vous étiez radical la dernière fois, vous avez rajouté ça aussi.
Moi, je ne change pas beaucoup. C'est vrai, je ne change pas beaucoup d'idées.
Merci à Gilles Rammstein, co-auteur avec Sylvestre Huette, « Du climat en 100 questions » paru aux éditions Talendier, pour sa libre participation à ce numéro de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM, réalisé avec la complicité de la Société d'Astronomie de Nantes.